Voilà, je m'appelle Richard Bernet, je fais partie de l'église de Cossonay, là d'où vient avant votre pasteur, Benjamin. Je l'ai connu là-bas. Et puis, pendant que j'étais dans l'église à Cossonay, j'étais en mission aussi. Je suis parti 10 ans au Japon et 2 ans en Afrique. Voilà, c'était mon église d'envoi. Alors, de temps en temps, Benjamin m'a demandé de venir le remplacer, et c'est le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la prière. Ça, n'est-ce pas, ça touche directement notre vie avec le Seigneur. Dans Matthieu, au chapitre 6, Jésus nous en parle longuement. Et il commence par nous donner deux cadres pour la prière. Alors le premier cadre, c'est au verset 1, je vous le lis. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » C'est-à-dire dans votre vie de foi, ne recherchez pas votre propre glorification. Hein? Et Jésus développe, dans les versets suivants, « ni dans le jeûne, ni dans les offrandes, ni justement dans la prière. » Écoutez le verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. » Et puis, le verset suivant, le verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc en fait, prier avec humilité et devant le Père seul. Ça, c'est le premier cadre. Ce n'est pas que ce soit faux de prier ensemble. Hein? Nous prions en église. Et les apôtres le faisaient aussi. Ce qui serait faux, ce serait de prier pour nous montrer aux autres. Hein? Pour que les autres remarquent comment on prie bien et pour qu'ils nous admirent. En fait, si nous faisons cela, nous ne parlons pas vraiment à Dieu et à Dieu seul. Hein, voilà pour le premier cadre. Et puis maintenant, le deuxième cadre, c'est au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Vous savez, il y a un exemple de ça célèbre dans l'Ancien Testament. C'est une histoire du prophète Élie. Les prophètes du dieu Baal avaient préparé un sacrifice. Et ils ont prié leur divinité pour que Baal fasse descendre le feu du ciel sur leur sacrifice. Et ils espéraient que leur zèle allait finir par plier le bras de Baal. Alors ils ont prié pendant des heures. Mais rien s'est passé, bien sûr. Alors, ne faisons pas comme eux. Hein. Dans l'intercession, finalement, prier juste, ce n'est pas ressasser beaucoup de fois la même demande, jusqu'à ce que Dieu entre dans notre vision des choses. Non. Prier juste, c'est présenter nos demandes au Père, simplement, et en lui faisant confiance. Parce que lui, il sait ce dont nous avons besoin. Le verset 8, justement. « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » En fait, jusqu'ici, Jésus nous dit, « Quand vous priez dans votre cœur, eh bien, placez-vous seul devant le Père, seul. Et puis, ne multipliez pas vos paroles à perte de vue. Hein? Priez avec confiance, parce que le Père sait déjà comment il va vous répondre. En fait, Jésus nous montre quelle doit être notre position de cœur dans la prière. Et ça, c'est le fondement de la prière. Et après nous avoir donné ce fondement, hein, ce qui est la base de la prière, eh bien, Jésus va nous donner maintenant le modèle de la prière, le modèle de base, le Notre Père, avec quatre parties. Hein? D'abord, hein, à qui nous nous adressons dans la prière? Notre Père. Et puis, ensuite, un groupe de trois phrases. Hein? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Où là, nous disons notre espérance et notre engagement dans le royaume de Dieu. Et puis ensuite, un autre groupe de trois phrases où nous demandons des choses au Seigneur. Hein? Notre pain quotidien, le pardon, la libération du mal. Et puis enfin, une glorification de Dieu. À lui le règne, la puissance et la gloire. Ça, c'est le, disons, la structure du Notre Père. Mais maintenant, regardons de plus près ce modèle de prière que Jésus nous a donné. Hein, c'est comme un guide pour notre prière. Alors, d'abord, première partie. À qui parlons-nous? Le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père. Alors, quand je prie, eh bien, quelle relation est-ce que j'ai avec Dieu? Quelle relation est-ce que je vis? Hein? Ça va canaliser ma prière. Et aussi, ça va comme déterminer la force de mon investissement dans mes propres paroles. Hein? Dans la prière, on ne s'adresse pas juste, disons, à un copain très doué qu'on voudrait convaincre de nous aider dans nos projets. On s'adresse à notre Père. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans la pensée biblique, hein, dans l'Ancien Testament et le Nouveau aussi, eh bien, le Père, c'est celui de qui je tire mon origine. Et alors, c'est celui envers qui je manifeste ma reconnaissance pour la vie. Et puis, le Père, c'est celui qui me donne ma nourriture. Et alors, c'est de lui que j'attends les bénédictions. Et enfin, le Père, c'est celui qui me guide. Et alors, c'est de lui que j'attends la direction. Ainsi, dans la prière, dans notre prière que nous parlons à notre Père, eh bien, notre cœur devrait comme être orienté par un élan dans ces trois directions. D'abord, un merci pour la vie. Et puis ensuite, un « je viens chercher ta bienveillance ». Et puis ensuite, un « je viens chercher ta direction ». Je répète, « merci pour la vie, je viens chercher ta bienveillance ». Je viens chercher ta direction. Et puis regardez, ce n'est pas mon Père, c'est notre Père. Alors même que t'en prie seul dans notre chambre, eh bien, dans notre cœur, on ne devrait pas se présenter devant le Seigneur comme une sorte de héros solitaire entouré d'ennemis. Parce qu'on n'est pas solitaire. Nous sommes en communion avec les frères et sœurs que le Seigneur nous a donnés dans l'Église. Du coup, ce n'est pas seulement pour le Seigneur et pour nous-mêmes que nous combattons. C'est aussi pour les frères et sœurs dans l'Église. Alors, si je demande au Seigneur de me fortifier, moi, je vais aussi lui demander de fortifier mes frères et sœurs dans leur combat personnel. Et je vais aussi prier pour l'Église, globalement, en tant que groupe, en tant que corps, on pourrait dire. Et puis à présent, la deuxième partie, ces trois premières phrases du Notre Père. Vous vous souvenez, que ton nom soit sanctifié, etc. Ces trois phrases, elles sont toutes au subjonctif. Par exemple, que ton règne vienne, ça c'est du subjonctif. Et en grec, dans la langue originale aussi, elles sont toutes au subjonctif. Ce qui veut bien dire qu'il faut les prendre ensemble. Maintenant, le subjonctif, c'est la marque de l'espérance. Exemple, je souhaite que vous veniez chez moi, au subjonctif. Autrement dit, ces trois phrases du Notre Père, ce sont trois espérances, ou bien trois aspirations qui devraient habiter notre cœur dans la prière. Elles sont trois aspirations qui montrent comment nous voyons notre Père et comment nous voyons sa place dans le monde. Alors, première aspiration, le verset 10 au début, « Que ton nom soit sanctifié ». Dans la pensée biblique, le nom, c'est comme un concentré de celui qui le porte. Comme une manifestation de lui-même, avec sa réputation, ses actions, ses projets, etc. Quand on cite le nom de quelqu'un, c'est un peu comme s'il était présent. Alors, avec « que ton nom soit sanctifié », nous disons « Notre Père, que tu sois manifesté et que tu sois pleinement reconnu comme Dieu ». Dans le monde entier et par tous les hommes. Celui qui prie ainsi, il ne prie pas seulement dans le cadre de sa propre petite vie à lui tout seul. Il dit que ceux qui m'entourent te connaissent eux aussi et que tu sois honoré au milieu de tous. Ça veut dire que nous entrons dans la prière ayant comme visée l'œuvre de Dieu parmi ceux qui nous entourent. C'est ça, prier que ton nom soit sanctifié. Mais c'est plus que ça encore. Que ton nom soit sanctifié, c'est aussi le désir, l'aspiration que les valeurs de l'Évangile et l'œuvre de Dieu transparaissent dans notre vie personnelle. Et du coup, devant le Père, que ton nom soit sanctifié, ça exprime aussi notre engagement dans son œuvre. Et puis maintenant, deuxième aspiration, la suite du verset 10. Que ton règne vienne. Ici, nous disons que nous attendons la pleine manifestation de l'autorité de Dieu. Évidemment, son royaume est déjà là, parmi nous, mais il n'est pas encore pleinement manifesté. Alors ici, nous exprimons notre attente pour cette pleine manifestation. Et puis aussi, nous exprimons notre désir de voir enfin le Seigneur face à face, et non plus seulement, comme dit Paul, comme dans un miroir. Alors, avec que ton règne vienne, eh bien, nous confessons notre foi. Notre foi que le meilleur, eh bien, c'est la relation directe avec notre Père. En fait, après notre engagement pour que son nom soit sanctifié de notre vie, eh bien, que ton règne vienne, ça exprime notre espérance que cet engagement, eh bien, il est un fruit concret de notre vie de tous les jours. Et puis enfin, troisième aspiration, la fin du verset 10. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ici, nous disons notre attente que le plan de Dieu s'accomplisse, jusque dans les détails. Parce qu'effectivement, le Seigneur se préoccupe même des détails de notre vie. Un peu plus loin dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira, et même les cheveux de votre tête sont comptés. Et là aussi, eh bien, ce qui est directement visé, c'est aussi notre engagement concret. Dire que ta volonté soit faite, c'est nous engager à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Mais ça va plus loin. Dire que ta volonté soit faite, c'est aussi dire « je suis d'accord que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, même si c'est difficile pour moi. » Il peut arriver que notre environnement de vie devienne difficile sans qu'on ait rien fait pour. Ce n'est même pas notre faute. Et il peut même arriver que pendant un certain temps, eh bien, le Seigneur nous laisse dans cette situation difficile. Parce que ça fait partie de son plan pour nous. Ou bien parce que ça fait partie peut-être de son plan pour quelqu'un d'autre. Pensez à, par exemple, à Moïse dans le désert, ou bien au prophète Jérémie, ou bien à l'apôtre Paul. Ainsi, ces trois premières phrases du Notre Père, eh bien, c'est pas seulement louange et adoration. Dans ces trois premières phrases, nous proclamons d'une part que nous voulons nous engager pleinement dans l'œuvre de Dieu, notre Père, à la suite de Jésus, notre berger, et nous proclamons d'autre part que nous sommes prêts à poursuivre notre engagement, même si ça devient difficile pour nous. Et puis maintenant, les trois phrases suivantes, qui, elles, sont toutes à l'impératif. Là, nous demandons des choses à Dieu, c'est de l'intercession. Par exemple, donne-nous notre pain quotidien. Et en tant que modèle, eh bien, ces trois phrases, elles contiennent toutes nos prières de demande. Mais maintenant, très intéressant, ces trois phrases de demande, elles viennent après celles qui disent notre engagement dans l'œuvre de Dieu. Autrement dit, notre engagement dans le chemin que le Seigneur met devant nous, eh bien, cet engagement, il précède, il vient avant nos prières de demande. C'est-à-dire, notre intercession, elle est vraiment juste quand elle est alignée sur notre engagement dans l'œuvre de Dieu. Ce qui correspond pas mal à ce que Jacques dit dans son épître. Je vous lis au chapitre 4, le verset 13. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser dans vos passions. Maintenant, regardons tout ça en détail. Le verset 11. La première demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain, ce n'est pas seulement la nourriture, hein, c'est tous nos besoins de vie, autant physiques que psychiques. D'un côté, par exemple, hein, le logement, la nourriture, les relations. Et puis d'un autre côté, la paix intérieure, la confiance en soi, l'honneur aussi. N'empêche que, attention, il s'agit bien de nos besoins et non pas de nos envies. Si nous prions pour quelque chose, évidemment, il peut arriver que le Seigneur il agisse dans le sens de notre bon plaisir, hein, pour nous redonner le moral s'il y a besoin. Mais si le Seigneur ne répond pas positivement à notre demande, eh bien, posons-nous quand même la question si ce que nous avons demandé ne correspond pas plus à une envie qu'à un besoin. Et puis regardez, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Autrement dit, demandons au Seigneur de combler chaque jour nos besoins de chaque jour. Comme les Israélites qui mangeaient la manne dans le désert, un jour après l'autre. Évidemment, il y a des besoins long terme, hein, qui restent les mêmes tous les jours. Mais dans la prière, eh ben, laissons les besoins du futur dans le futur. Le Seigneur n'a pas besoin qu'on l'avertisse à l'avance. Lui, il sait. Et puis maintenant, deuxième demande, au verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En fait, nous avons des besoins fondamentaux dans notre vie, hein? Boire, manger, etc. Ça, c'est pour notre vie biologique, pour notre corps. Eh bien, le pardon, c'est un besoin fondamental pour notre vie avec le Seigneur. Et c'est vital. Parce que sans pardon, nous allons mourir biologiquement comme tout le monde, mais nous allons aussi mourir spirituellement, être séparés de Dieu pour l'éternité. Or, le pardon, ça fait aussi partie des choses que nous devons demander au Seigneur. Mais cette demande-là, elle est soumise à condition. C'est que nous-mêmes aussi, nous acceptions de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. En fait, le non-pardon, hein, le refus de pardonner à quelqu'un, c'est une des grandes barrières qui empêche beaucoup de gens d'entrer vraiment dans le royaume de Dieu. Hein, le royaume de Dieu, quelque part, il est déjà au milieu de nous. Mais beaucoup sont retenus d'y entrer ou peinent beaucoup à y entrer à cause d'un refus de pardon dans leur vie. Et puis, troisième demande au verset 13. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin ou du mal. Hein, délivre-nous du malin, ça veut dire délivre-nous du diable, qui est celui qui veut nous entraîner dans le mal. Mais maintenant, regardez. En fait, intéressant, c'est une demande à double. J'explique. Laissez quelqu'un entrer dans la tentation, vous êtes d'accord ? C'est pile, essayer de le faire entrer dans le mal. Hein? Eh bien, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, c'est pile, délivre-nous du mal. Deux fois la même chose. Et on fait cette demande à double, tellement c'est important. C'est du genre, délivre-nous du mal. Vraiment, vraiment, délivre-nous du mal. En théologie, On appelle ça un parallélisme de membres. En fait, c'est très fréquent dans les psaumes, il y en a beaucoup. Ainsi, ces trois demandes du Notre Père, eh bien, elles touchent nos vrais besoins de vie. Nous demandons à Dieu de nous soutenir sur son chemin par sa bienveillance et puis aussi de nous préserver de tomber dans le mal. Et quand nous y tombons, eh bien, Seigneur, pardonne-nous. Et puis maintenant, dernière partie, la fin du verset 13. « Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. » Ici, on fait écho, aux trois phrases du début. « C'est à toi qu'appartient le règne, reprend que ton règne vienne. »« C'est à toi qu'appartient la puissance, reprend que ta volonté soit faite. » Et puis, « C'est à toi qu'appartient la gloire, reprend que ton nom soit sanctifié. » Hein? En fait, cette dernière partie, elle fait la clôture du Notre Père. On referme la boîte, en fait. Et puis aussi, cette troisième partie, elle assure le fondement de nos demandes. Hein? En fait, nos demandes, elles correspondent non seulement à ce que Dieu veut, mais elles correspondent à ce que Dieu est. Hein? Il est divinement régnant, si je puis dire. Il est divinement puissant. Et puis, il est divinement glorieux. Et enfin, pour finir, bon, le mot « Amen », ça c'est de l'hébreu qui veut dire « que cela soit ainsi ». Alors je conclue. Dans ce texte, Jésus nous dit « Quand vous priez, dans votre cœur, placez-vous seul devant le Père seul. Et ne multipliez pas vos paroles à perte de vue. Priez avec confiance. » Et puis, priez le Père, manifestez-lui votre reconnaissance pour la vie. Attendez de lui direction et bénédiction. Et priez en communion avec vos frères et sœurs dans l'Église. Proclamez votre engagement dans son œuvre, même si ça devient difficile. Demandez au Seigneur de vous soutenir sur son chemin et de vous préserver du mal et de ses conséquences. Et enfin, rappelez-vous que Dieu vous écoute. Amen.